Chapitre 43. Juge. La femme les conduisit jusqu'à un aéroglisseur garé à l'intérieur de la factory, si l'on pouvait appeler cela garé, puisqu'il avait l'avant enfoncé dans un support d'outils en béton. C'était un véhicule de transport blanc avec les mots « Cathode Cathé » écrits sur les portes arrière. Et Slick se demanda quand elle avait réussi à le faire rentrer ici, sans qu'il l'entende. Peut-être pendant que le comte Bobby faisait diversion avec le dirigeable. L'alef était lourd, comme si l'on portait un petit bloc moteur. Il ne voulait pas voir la sorcière parce qu'il y avait du sang sur les lames, et il ne l'avait pas fabriquée pour ça. Quelques cadavres entiers ou en morceaux jonchaient le sol. Il s'efforça de ne pas les regarder non plus. Il baissa les yeux sur le bloc de biopuce et sur le boîtier de la batterie, puis se demanda si tout était encore là-dedans. La maison grise, le Mexique et les pupilles de Free Jane. « Attendez !» dit la femme. Il passait près de la rampe qui menait à la pièce où il stockait ses machines. Le juge, le dépeceur de cadavres et les deux autres enquêteurs s'y trouvaient encore. Elle tenait toujours son pistolet. Slick posa une main sur l'épaule de Sherry. Elle a dit d'attendre.
« Le truc que j'ai vu hier soir, » dit la femme. « Le robot a un bras. Il marche ?»«
Ouais. »«
Il est fort ? » ?»« Il peut porter une cargaison ?»« Sur du sol irrégulier. »«
Ouais. »
« Prends-le. »«
Hein ? Mets-le à l'arrière de l'aéro. Allez, vite !»
Chéri s'accrochait à lui, les jambes vacillant à cause de ce que lui avait donné la fille.
« Toi !»
dit Molly en la désignant avec son arme. « Grimpe dans l'aéro !»«
Vas-y !» dit Slick.
Il posa la lef et monta la rampe jusque dans la salle où le juge attendait dans l'ombre, son bras près de lui sur une bâche, là où Slick l'avait laissé. Il n'aurait désormais plus l'occasion de le finir. De le faire fonctionner comme il fallait. Il y avait une télécommande sur une rangée d'étagères en métal poussiéreuse. Il s'en empara et alluma le juge, dont la carapace brune se mit à trembler légèrement. Il dirigea le juge, lui fit descendre la rampe, ses larges pieds avançant 1, 2, 1, 2, avec les gyros pour compenser le bras manquant. La femme avait ouvert les portes arrière de l'aéro et Slick orienta le juge droit vers elle. Elle recula un peu lorsque la machine la surplomba, ses verres d'acier reflétant la rouille polie. Slick arriva derrière le juge et commença à réfléchir aux angles, à la façon de le faire entrer là-dedans. Il n'en voyait pas l'intérêt, mais elle semblait savoir ce qu'elle faisait et cela valait mieux que de rester dans les parages de la factory en ce moment, avec tous ses cadavres. Il repensa à Gentry là-haut, avec ses livres et ses morts. Il y avait deux filles là-bas, et elles ressemblaient toutes les deux à Angie Mitchell. Une d'entre elles était désormais morte, il ignorait comment ou pourquoi. Et la femme au pistolet avait dit à l'autre de rester là.
« Allez,
allez ! Fais rentrer ton bordel là-dedans !
Il faut se tirer. » Lorsqu'ils eurent réussi à faire monter le juge à l'arrière de l'aéro, les jambes repliées et sur le flanc, il ferma les portes, contourna le véhicule en courant et grimpa du côté passager. La lef se trouvait entre les sièges avant. Chéri était recroquevillé sur la banquette arrière, sous un grand parka orange avec le logo SenseNet sur la manche. Elle frissonnait. La femme alluma le moteur et gonfla la robe. Slick crut qu'ils allaient rester coincés sur la colonne de béton, mais lorsqu'elle passa la marche arrière, ils perdirent une bande chromée mais se dégagèrent. Elle fit faire demi-tour au véhicule et ils partirent en direction des portes. En chemin vers la sortie, ils croisèrent un type en costume cravate et manteau de tweed qui ne semblait pas les avoir vus.
« C'est qui ?»
Elle haussa les épaules.
« Tu veux cet aéro ?»
demanda-t-elle. Il devait être à 10 kilomètres de la factory désormais et il n'avait pas jeté un coup d'œil en arrière.
« Tu l'as volé ?»
Oui.
Alors non.
Vraiment?
J'ai fait de la tôle, vol de voiture.
Comment va ta petite copine?
Elle dort. Et c'est pas ma copine.
Ah bon?
Je peux savoir qui tu es?
Une femme d'affaires.
Quel genre d'affaire?
Difficile à dire.
Le ciel au-dessus de la solitude était blanc et éclatant.
T'es venu pour ça?
Il tapota la lèvre.
En quelque sorte.
Et maintenant?
J'ai passé un marché. J'ai eu Mitchell avec la boîte.
C'était elle? Celle qui est tombée?
Ouais, c'était elle.
Mais elle est morte.
Ah, il y a mourir et mourir.
Comme Free Jane.
Elle bougea la tête comme si elle lui jetait un coup d'œil.
Que sais-tu là-dessus?
Je l'ai vue une fois, là-dedans.
Bah, elle y est toujours. Et Angie aussi.
Et Bobby?
Newmark?
Ouais. Alors, tu vas en faire quoi?
Tu as construit ces trucs, pas vrai? Celui qui est à l'arrière. Et les autres?
Slick regarda par-dessus son épaule le juge plié dans le coffre de l'aéro, comme une grosse poupée rouillée sans tête.
Ouais.
Tu sais donc te servir d'outils?
À peu près.
Alors j'ai un boulot pour toi. Elle ralentit le véhicule près d'un monticule de déchets recouvert de neige et s'arrêta. Il y a un kit d'urgence par là, quelque part. Prends-le, monte sur le toit, rapporte-moi les panneaux solaires. Et du câble. Je veux que tu branches les panneaux pour qu'ils rechargent la batterie de ce truc. Tu peux le faire?
Sans doute. Pourquoi?
Elle s'adossa à son siège et Slick vit qu'elle était plus âgée qu'il le pensait et fatiguée. Mitchell est là-bas. Ils veulent qu'elle ait du temps, c'est tout.
Il?
Je ne sais pas. Quelque chose. Ce avec quoi j'ai passé mon accord. Tu crois que la batterie pourrait tenir combien de temps, si les panneaux fonctionnent?
Quelques mois, un an peut-être.
D'accord. Je vais le cacher quelque part où les panneaux seront au soleil.
Il se passera quoi si l'on coupe le courant?
Elle se baissa et passa le bout de son index le long du fin câble qui reliait la LEF à la batterie. Slick vit ses ongles dans la lumière du matin. Il semblait artificiel.
« Hé,
Free Jane, » dit-elle, son doigt en équilibre au-dessus du câble. « Je te tiens. » Puis elle ferma le poing et le rouvrit, comme si elle laissait s'échapper quelque chose. Chéri voulait dire à Slick tout ce qu'il ferait lorsqu'ils arriveraient à Cleveland. Il accrochait deux des panneaux plats au large du torse du juge, avec du ruban adhésif argenté. La lèvre grise était déjà collée au dos de la machine avec le même dispositif. Chéri prétendait pouvoir lui trouver un boulot pour réparer les consoles dans les salles d'arcade. Il ne l'écoutait pas vraiment. Lorsqu'il eut achevé de tout relier, il donna la télécommande à la femme.
« J'imagine qu'on va t'attendre maintenant. »
« Non, » dit-elle. « Tu vas à Cleveland. Chéri vient de t'expliquer. »«
Et toi ?»«
Je vais me balader. »«
T'as envie de mourir de froid, de faim ?»«
J'ai envie d'être un peu seule pour une fois, putain. » Elle testa les commandes et le juge trembla, puis fit un pas vers l'avant, un autre.
« Bonne chance à Cleveland !»
Ils la regardèrent marcher sur la solitude, suivie par la démarche lourde du juge. Puis elle se retourna et cria
« Hé, chéri ! Fais-lui donc prendre un bain !»
Chéri lui adressa un salut et les fermetures éclairs de ses vestes en cuir tintèrent.